Bonjour. Êtes-vous prêts?
Je veux dire, pour le Super Bowl? Ça fait de la compétition normale, mais il y a les VHS, enregistreurs numériques, il y a toutes sortes de moyens maintenant de ne pas manquer la parole de Dieu. Puis le Super Bowl! Catherine, es-tu prête pour ce soir? Non? T'écoutes pas ça, le Super Bowl, Catherine? Non? Ah, OK, c'est le hockey, hein? Juste le hockey. Ah, c'est une pure, une vraie. Moi, je suis même pas sportif, mais Super Bowl, c'est bon. Une des coutumes avec le football, c'est quoi? C'est la prière. Ça fait partie de la coutume. Et puis, c'est intéressant de parler avec les Hamel parce que ça te permet d'aller, ils sont très impliqués dans le football, ça te permet d'aller un peu behind the scene, puis de voir un peu qu'il y a un élément très culturel pour plusieurs d'entre eux. Hein, tu sais, les joueurs de football vont aller prier, puis ça fait tellement partie de la culture du football qu'ils vont aller prier, qu'ils soient croyants ou non. Ça en vient à un point où ça a plus ou moins d'importance pour plusieurs d'entre eux. Mais il y en a d'autres qui cherchent à poser un geste d'humilité devant le Créateur alors qu'ils vont entrer sur le terrain. Puis ça fait partie de leur culture. Et ça m'amène à parler de la prière, parce que la prière fait partie d'à peu près toutes les cultures dans le monde. C'est vrai. Presque tous les hommes sur la terre prient. Et dépendamment d'où vous venez sur la terre, de votre culture, américain, canadien, Moyen-Orient, n'importe où sur la terre, vous avez des références. On a des images différentes de la prière. Par exemple, si vous venez du Moyen-Orient, la prière fait partie intégrante de vos souvenirs d'enfance. Juifs, chrétiens, musulmans, vous voyez des hommes en train de prier. Que ce soit les Juifs au mur des Lamentations, que ce soit des musulmans en train de prier au chant, une sorte de complainte, hein, d'un imam, c'est là. Si vous êtes des purs laines, comme on dit au Québec, du Québec, vous avez 50 ans et plus, vous avez un autre cadre de référence. Et là, ce que vous pouvez vous rappeler très tôt dans votre enfance, c'est l'image de la prière dans l'Église catholique, où il y avait des prières où même on égrenait notre chapelet, puis la prière devenait un acte de contrition même, où on répétait des prières pour expier d'une certaine manière nos fautes. Si vous êtes beaucoup plus jeune et que vous avez à peu près pas de culture religieuse, probablement que vous priez comme bien des postmodernes le font. Et de temps en temps, des fois c'est dans des moments de crise, hein, il y a des gens qui ne pratiquent aucune religion particulière, mais quand ça va mal, quand ça va vraiment mal, une espèce de pensée lancée au grand tout universel, et je connais des gens comme ça, pas religieux du tout. Tu te retrouves avec eux sur un lac en train de pêcher, puis à un moment donné, je me souviens d'une scène, j'étais avec quelqu'un, puis pas croyant du tout à ce que je sache, moi, hein. On est en train de pêcher, puis à un moment donné, il regarde la nature. Il se met à faire une prière au grand tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend, peut-être que non, mais c'est une manière de s'unir à l'univers ou quelque chose comme ça. Presque tous les hommes prient d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie d'un espèce de besoin dans l'être humain. Il y a une aspiration à une transcendance, à aller vers l'espèce d'inconnu qui est de l'autre côté. Une chose est certaine, presque tous les hommes prient. Si vous venez d'une église évangélique ou protestante, et encore plus si vous fréquentez une telle église comme ici depuis votre enfance, ben là vous avez d'autres références par rapport à la prière. Vous avez des images d'hommes et de femmes qui se démarquent dans l'église comme des hommes et des femmes de prière. Ce sont des gens qui, vous savez, vont aller pleurer dans la prière, vont aller se réjouir dans la prière, vont aller lutter. Mener un combat dans la prière pour leurs proches. Ça, c'est mon cadre de référence à moi. Parce que ma mère est une femme de prière. Et j'ai souvenir, aussi longtemps que je me souviens de la prière, de ma mère qui lutte dans la prière pour ses proches, pour sa famille, pour la mission. Mon premier pasteur est un homme de prière. C'est Richard Roule. C'est encore un homme de prière. Bien sûr, tous les pasteurs sont des hommes de prière, évidemment. Mais parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont des hommes de prière. Et ce sont nos modèles pour nous. Richard Hull m'a appris à prier. C'est un homme de prière. Il a saisi l'importance de la prière. Même assez tard dans sa vie, vous écouterez la vidéo la semaine prochaine, vous allez voir qu'il y a un espoir, même pour ceux d'entre nous qui ne sommes peut-être pas vraiment des gens de prière. Envoyez-vous selon votre culture, selon votre background, selon la région sur la terre d'où vous venez, votre histoire à vous. Vous avez une image par rapport à la prière, mais selon les statistiques, vous priez. Parce que presque tous les hommes sur la terre prient. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? Ce matin, on fait une introduction, une espèce de survol. Vous allez voir, c'est assez ambitieux, mon enfant. On va survoler un petit peu les Écritures pour voir qu'est-ce que c'est la prière. Et pour comprendre la prière, il faut qu'on retourne au tout début de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. On est obligé de retourner dans la Genèse, à la création de l'homme et de la femme. On était obligé de retourner au début parce qu'au début, il n'y avait pas de prière. Pas tel que nous le concevons. Il nous est dit dans Genèse qu'au début, Dieu était dans la présence de l'homme et de la femme. Leur communion était parfaite ensemble. L'image nous est donnée même qu'à la fin de la journée, il pouvait arriver à Dieu de descendre dans le jardin et presque littéralement, on n'a pas vraiment de détails, mais de prendre une marche avec Adam et Ève, puis d'échanger avec eux. Et si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, avec la Bible, vous allez comprendre qu'on retrouve cette communion, cette intimité sans aucun bruit, sans aucun péché. Pour retrouver cela, il faut qu'on aille dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21, pour retrouver cela. Parce qu'il nous est dit qu'un jour, nous serons tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous serons dans la présence littérale de Dieu. La description qui nous est faite, c'est qu'il n'y aura plus de temple, même plus de soleil. Dieu est en lui-même la lumière. Nous allons être dans sa sainte présence, sans plus aucun obstacle à la communion avec Dieu. Aucun péché, aucune lutte, aucune guerre, aucune dissension, aucune tension. Simplement le plaisir d'être dans la présence de Dieu, de se réjouir, de rire ensemble, de vivre ce bonheur qu'Adam et Ève avaient au début. Alors voyez-vous, présenter comme ça, la prière, c'est toute cette communion avec Dieu que l'homme a entre la création de l'homme puis Apocalypse 21. C'est long, là. La prière est intimement liée à l'histoire de l'humanité. Parce que nous allons retrouver cette intimité entière et parfaite seulement lorsque nous serons réunis avec le Seigneur dans sa présence. Et tout le long entre les deux, vous avez la prière. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la création de l'homme et de la femme, une cassure qui est intervenue dans l'histoire. L'homme et la femme ont péché contre le Créateur. En péchant, ils ont dit à Dieu, « On ne voudrait pas t'évacuer de notre vie, mais on n'a certainement pas besoin de toi comme tu le penses. » Dieu a bien compris le message et la communion a été brisée. Il y a eu une cassure à ce moment-là dans l'intimité, dans la communion avec Dieu. Et il nous est dit dans Genèse 4, verset 26, il nous est dit que c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là qu'on commença à prier l'Éternel. Un tout petit peu après la chute, après cette cassure, après ce brisement, l'homme et la femme sont chassés du jardin. Il n'y a plus la même communion avec Dieu. Quelques temps après, les hommes et les femmes de Dieu qui recherchent cette communion avec Dieu, ont commencé à prier, à invoquer l'Éternel, selon la traduction que vous avez. Voyez-vous, depuis des milliers d'années, littéralement depuis des milliers d'années, les hommes et les femmes de Dieu qui veulent s'approcher de Dieu, s'approchent de Dieu dans la prière. En fait, lorsqu'on l'étudie bien, même dans les Écritures, il y a un emphase beaucoup plus grand sur la prière même que la lecture de la Bible. Vous êtes dans une église baptiste ici. C'est important pour nous d'aller étudier les Écritures, de permettre à l'Esprit-Saint de réformer notre pensée à travers la parole de Dieu. Amen! C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on ouvre la parole ce matin. C'est pour ça qu'on écoute des prédications. C'est pour que Dieu vienne transformer notre pensée. Mais l'accent dans les Écritures est très, très fort sur cette communion, cette intimité avec Dieu, où les hommes et les femmes de Dieu vont dans la présence de Dieu. Si je voulais donner une définition à la prière, je donnerais cette définition toute simple. La prière, c'est lorsqu'un homme, une femme, un petit enfant, une assemblée, comme on l'a fait tout à l'heure, s'arrête pour s'adresser à Dieu. La prière, c'est simplement lorsqu'une personne s'arrête dans ses activités, arrête de fixer les regards sur son environnement pour se tourner vers Dieu puis parler à Dieu. C'est ça la prière. À partir de Genèse 4, les hommes ont commencé à prier. Puis là, on voit toutes sortes de manières de prier. Il n'y a pas de modèle vraiment pour la prière. Il y a toutes sortes de prières qu'on peut faire monter à Dieu. On le voit à travers tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a des prières très, très courtes dans Nombre 12, 13. Moïse va s'écrier, « Oh Dieu, je t'en prie, guéris-la! » Amen. C'est fini là. Marie, sa sœur, avait péché. Elle était frappée d'une malédiction. Un cri du cœur. « Guéris-la! » C'est sa prière. D'autres fois, Moïse va intercéder en faveur du peuple, un peu comme avec Marie. Mais là, il va aller plaider devant Dieu, puis il va dire « Non, ne les châtie pas tels qu'ils le méritent. » Et donc, il va jouer vraiment un rôle d'intercession. Et les prières peuvent devenir très, très longues à ce moment-là. Il y a des prières de louange dans l'Ancien Testament, des prières d'action de grâce. Le livre des psaumes, c'est pratiquement juste un recueil de prières. Il y a des prières très longues là-dedans, où on va voir David qui va parfois exprimer son désespoir devant Dieu, même son incompréhension, même une certaine frustration dans la prière. Des fois, David va très loin. On sent qu'il ne comprend pas, qu'il n'accepte pas les circonstances. Généralement, avant la fin du psaume, il va s'être réconcilié avec Dieu. Mais voyez-vous, là, c'est pas de la douceur, c'est pas de l'intercession, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension qui est exprimée dans ses prières. Parfois, on va voir David qui vient très humblement confesser ses péchés devant Dieu. Et alors, la prière devient un acte d'humilité où je viens devant mon Dieu puis je réalise la bêtise de mon geste, la bêtise de mes paroles, puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite plus d'être accueilli dans ta présence. Et là, David devient très humble devant son Dieu. Reconnaît ses fautes, reconnaît son état, reconnaît sa petitesse. On trouve des prières publiques, comme on l'a fait ce matin. Des prières publiques faites par ceux qui dirigent l'Assemblée de Dieu. Des prières publiques faites en assemblée. Tout le monde ensemble. Des prières privées. Un père pleure devant Dieu la perte de son enfant. Une mère pleure devant Dieu afin qu'il lui donne un enfant. Job priait régulièrement Dieu pour sa famille. Même il priait pour les fautes que ses enfants avaient peut-être commises. On voit des prières de joie, d'action de grâce, de tristesse, des complaintes, de la colère, de l'incompréhension, des confessions de péché, des intercessions en faveur d'autres personnes, ou simplement de la louange, de l'adoration. Il y a des prières d'alliance avec Dieu, Jacob qui vient devant Dieu et qui dit « Seigneur, si tu me bénis, ma vie est à toi. Je te servirai dorénavant. » C'est une prière d'alliance, il y a un engagement. Ça ressemble à ce qu'on fait souvent lorsqu'on dit au Seigneur « Je veux que tu sois mon sauveur, mon Seigneur. » C'est une prière d'alliance. Je vais te servir à la vie et à la mort, parce que tu es mon Dieu. Une prière d'alliance qui est faite ici. On prie dans toutes sortes de circonstances aussi. Au sommet d'une montagne, en construisant une muraille. Il y en a qui sifflent en travaillant ou qui chantent en travaillant. Il y en a qui prient en travaillant. En construisant la montagne, au fond d'une grotte. On peut prier l'Éternel dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes d'endroits, au fond d'une prison. Et puis là, on arrive au Nouveau Testament. Alors là, évidemment, hein, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on commence avec les évangiles, puis on va voir la prière de Jésus, et on voit que Jésus priait toutes sortes de prières face à la tentation, des prières d'action de grâce, des prières d'intercession, simplement remercier pour l'abondance, ou intercéder en faveur de ses disciples, ou intercéder en faveur des hommes. Puis en même temps, on découvre en Jésus quelque chose de spécial. Sa vie de prière n'était pas la même que la nôtre parce qu'il n'avait pas péché. Et donc, il y a une intimité avec son Père qui rendait même ses disciples un peu jaloux. Enseigne-nous, nous aussi, on veut vivre cette intimité-là. Puis pourtant, ce qui est frappant, c'est que lorsque Jésus les enseigne sur la prière, il leur donne le Notre Père qu'on a chanté tout à l'heure. C'est assez simple quand même. Il me semble que Jésus t'enseigne sur la prière, puis il veut t'amener dans cette intimité-là. Il va nous dire des choses qu'on n'a jamais entendues sur la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est tellement simple comme prière. C'est vraiment pas inaccessible. Là. J'ai le goût de dire c'est très humain. C'est tout à fait à notre portée comme prière. Jésus priait avec une humanité qui nous est accessible en même temps. Même s'il y avait une intimité qui était exceptionnelle, parce que lui était sans péché. Et puis il y a cette prière de Jésus qui est un cri du cœur. Ce pourquoi de Jésus. C'est tellement humain, ce cri qu'il a lancé à la croix. Et pour moi, ce pourquoi-là, lorsqu'il va s'écrier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pour moi, ce pourquoi-là englobe tous les pourquoi de la terre. Avez-vous déjà réfléchi un instant combien de pourquoi sont montés de la part des hommes vers Dieu depuis que l'être humain a été créé? Mettez-vous un instant à la place de Dieu. Combien de pourquoi montent de la terre? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu enlevé ma femme aussi jeune? Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort de mon enfant? Pourquoi est-ce que je perds mon emploi? Pourquoi est-ce que c'est si dur de vivre? Pourquoi est-ce que je tombe tellement? Pourquoi est-ce que je suis si misérable? Pourquoi j'arrive pas à être meilleur? Pourquoi je passe toujours par les mêmes épreuves? Pourquoi est-ce que le monde va tellement mal? Pourquoi il y a tellement de guerre? Pourquoi il n'y a pas d'espoir? Pourquoi est-ce que l'environnement va tellement mal? Pour moi, le pourquoi de Jésus englobe tous les pourquoi de la terre. Et en même temps, si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, c'est le seul pourquoi qui était à 100% légitime. Parce que lui était sans péché. Lui était sans péché. Voyez-vous, à tous les autres, on peut les relier d'une manière ou d'une autre aux causes du péché. Mais lui était sans péché. Et si on avait entendu la réponse du Père, il aurait dit, parce que maintenant tu es péché, mon fils. Tu es péché pour les hommes. Et on voit encore son humanité. Parce que lorsque Jésus s'écrie puis il dit, pourquoi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est tellement humain. Est-ce qu'il ne savait pas pourquoi? Jésus connaissait sa mission. Mais même dans ce moment-là où il vit quelque chose avec son Père que nous ne saisirons probablement jamais entièrement. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Fils de Dieu. En même temps, il est tellement humain. Parce que dans son humanité, dans sa douleur, il lance le même cri. Il connaissait sa mission. Mais dans son humanité, il ne comprend pas cette séparation avec son Père. Voyez-vous, les prières de Jésus étaient très humaines, très simples, ressemblaient à toutes nos prières. Il y a toutes sortes de manières de prier. On le voit dans les Écritures, toutes sortes de genres de prières différentes qu'on va faire monter à Dieu dans des contextes différents, différentes manières de s'adresser à Dieu. Ça va prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de contenus. Mais la prière, simplement, qu'est-ce que c'est? C'est quand un homme, une femme s'arrête pour s'adresser à Dieu. C'est ça la prière. Accessible à tous, presque tous les hommes le font, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de régularité. En même temps, les prières de Jésus sont très humaines, elles sont très simples, mais en même temps, la venue de Jésus-Christ est venue changer fondamentalement la prière. La première venue de Jésus-Christ est venue changer des choses au niveau de la prière, il est venu bouleverser complètement la prière. Pourquoi? Parce que Jésus est venu réparer cette cassure qu'il y avait eu entre les hommes et Dieu. Voyez-vous, quand Jésus est venu, il est venu pour réparer ce bris, cette séparation, cette cassure dans la communion qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Quand Adam et Ève ont péché, quand nos pères ont péché. Il y a eu une cassure, un bris de communion à ce moment-là. L'homme est devenu péché et chacun d'entre nous, par notre histoire personnelle, nous avons confirmé que tous les hommes sont devenus pécheurs. Si vous avez un doute là-dessus, demandez à un ami, demandez à votre épouse, demandez à votre fiancé. Nous avons tous confirmé qu'il y a un bris de communion avec Dieu. Nos rapports les uns avec les autres le disent. Quand Adam et Ève ont péché, il y a eu un bris dans leur relation à eux. La relation ne serait plus jamais la même entre Adam et Ève, entre un homme et une femme. Et nous sommes là et nous allons vers les autres. Nous sommes des êtres relationnels et je veux être en communion avec mon épouse Esther. Je veux être en communion avec mes amis, avec mes frères, avec mes sœurs. Puis en même temps, à toutes sortes de moments, je fais des choses qui brisent cette communion-là. Nous l'expérimentons quotidiennement. Nous voulons aller vers l'autre, puis en même temps, on fait tellement de niaiseries dans ces relations-là. Le péché s'est transmis à tous les hommes. Alors imaginez si c'est vrai, entre deux pécheurs, ce qu'il en est avec Dieu, qui est saint, qui est parfait, en présence duquel aucun péché ne peut être admis. Il y a eu une cassure. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour réparer cette cassure-là. Il est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, afin que la communion puisse être rétablie entre les hommes et Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, je vais vous lire quelques versets ce matin. Dans 2 Corinthiens 5, 18, l'apôtre Paul écrit, « Car Dieu était en Jésus-Christ. » Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voyez-vous, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, mes péchés, Dieu les oublie, Dieu les efface, il les impute à son Fils. Il prend toutes mes fautes, toute ma condamnation, tout ce qui fait obstacle à ma communion avec Dieu, et il l'impute à son Fils. Alors ça change tout au niveau de la prière. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bien, depuis ce temps, les chrétiens s'approchent de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous entendez des chrétiens prier, ils prient au nom de Jésus-Christ. Ils s'approchent de Dieu invoquant le nom de celui qui s'est offert en sacrifice pour eux. Et là, ça vient changer complètement ma vie de prière. Parce que je peux m'approcher de Dieu avec une assurance nouvelle, avec une confiance nouvelle. Quand vous allez dans la prière, est-ce que vous approchez de Dieu au nom de Yannick Etier ou en votre nom propre? Dieu, je m'approche de toi au nom de Yannick Etier, avec cette assurance que mon nom va m'assurer les faveurs de Dieu. M'ouvre les portes du ciel. Oh, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Est-ce que vous vous approchez de Dieu en votre nom propre? Avec cette assurance que les portes du ciel vous sont ouvertes? Est-ce que vous vous approchez de Dieu au nom d'un prophète quelconque? Ah, il y a des gens qui prient au nom d'un prophète. Est-ce que ce prophète est mort sur la croix pour vos péchés? Et plus encore, est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Voyez-vous, quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il a agréé son sacrifice. Cette résurrection me donne de l'assurance quand je m'approche de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus-Christ. Quand vous approchez de Dieu, est-ce que vous approchez de Dieu au nom d'un saint, d'une sainte, d'un homme quelconque, d'une femme, et vous approchez de Dieu au nom de ce saint, ayant l'assurance qu'il va vous ouvrir les portes du ciel? Est-ce que cet homme, cette femme, est mort pour vous sur la croix? Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? En quel nom vous approchez-vous de Dieu? Au nom de qui venez-vous à la rencontre de Dieu? Au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que lorsque je m'approche de Dieu dans l'intimité, si je le faisais en mon nom propre, ou au nom d'un homme ou d'une femme quelconque, nous sommes tous des pécheurs. Toute la gang. Laissez-moi l'illustrer comme ça. Le premier emploi que j'ai eu, c'est un de mes amis qui m'a référé. D'accord? C'est un job de plongeur. Lave-vaisselle dans le restaurant avait brisé. Il faisait 12 heures par jour puis il avait besoin d'un autre plongeur. C'est pas une grosse job. Job de plongeur. Maintenant, moi, je ne suis pas allé à la porte comme ça en disant « Salut, je m'appelle Yannick. » J'ai entendu dire que vous aviez besoin de travail. OK, Yannick, t'es qui, toi? Ça n'a pas marché de même. Mon chum a parlé avec le boss, il a dit, je connais un gars, je t'assure qu'il est travaillant, ça va bien aller, tu devrais le prendre. Je suis allé voir le patron qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. N'est-ce pas? Puis je lui ai dit, Pierre, m'a dit de venir vous voir. Je me suis présenté devant cet illustre inconnu au nom de Pierre. C'est le nom de Pierre qui m'a ouvert la porte pour rentrer. Parce que moi, il ne me connaissait pas. Lorsque vous allez dans la prière, vous vous approchez de Dieu au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, j'espère. Parce qu'il est le seul qui est mort sur la croix pour vos péchés. Il nous est dit dans le livre des Actes qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sur la terre par lequel les hommes puissent être sauvés. Aucun autre nom. Et c'est pour cela que les chrétiens vont dans la prière régulièrement, parce que nous avons cette assurance qu'il nous écoute. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est le nom de Jésus qui nous assure cet accès auprès de Dieu. » Voyez-vous, la venue de Jésus est venue bouleverser complètement la prière. C'est venu changer complètement la prière. Parce que maintenant, comme chrétiens, nous avons une assurance que Dieu agrée nos prières, que Dieu écoute nos prières, que nous avons accès auprès de lui, que nous sommes accueillis, que Dieu ne voit pas le pécheur que je suis premièrement, mais il voit le pécheur racheté par le sang de Christ. Et c'est son nom, c'est son sacrifice qui m'ouvre les portes du ciel. C'est une première manière que la venue de Jésus est venue changer complètement la prière. Mais la venue de Jésus-Christ est venue changer la prière d'une autre manière aussi, très importante. Parce que Jésus nous a dit qu'avec son sacrifice, une fois qu'il remontait auprès du Père, quelque chose d'autre allait se passer, qu'il allait bouleverser complètement la prière. Voyez-vous, à partir du moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a offert sa vie en sacrifice, à partir du moment où moi je place ma foi en Jésus-Christ, je suis purifié. Le temple de mon corps, c'est une image qui est donnée dans le Nouveau Testament, est purifié. Et là, Jésus avait promis à ses disciples qu'il enverrait à partir de ce moment-là le Saint-Esprit, qui viendrait faire sa demeure en nous. Ça aussi, c'est venu changer complètement la prière. Parce que maintenant, lorsque je vais dans la prière, je ne vais pas seul dans la prière. Mais je vais dans la prière, pensez à ça, c'est assez fascinant. Je m'en vais dans la prière prier Dieu avec Dieu l'Esprit qui intercède en ma faveur. Bon, hein? Je m'en vais supplier Dieu avec Dieu de mon bord qui parle à Dieu. M'excuse, c'est le mystère de la Trinité, là. C'est un petit peu compliqué. Mais pensez à ça un instant. Il y a tout un réconfort incroyable. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains que lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit lui-même qui connaît Dieu, qui sonde Dieu, lui-même pousse des soupirs et intercède en notre faveur. Vous savez, j'ai donné des exemples tantôt sur la prière. La prière, ce n'est pas toujours cohérent, hein? Nos prières ne sont pas toujours cohérentes. Nos prières, c'est souvent une émotion, c'est souvent un cri du cœur, c'est souvent un cri de désespoir, c'est souvent un grand trouble dans notre cœur. On va dans la prière et on dit « Seigneur! » Et on ne sait pas quoi demander parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Puis on dit « Mais peut-être tu veux me faire grandir, mais moi je ne veux pas passer par là, Seigneur. C'est pas le chemin que je veux prendre, mais peut-être que c'est le bon chemin, je ne sais pas quoi demander, Seigneur. » Et dans ce moment-là, dans ce moment précis, l'Esprit de Dieu qui a fait sa résidence, sa demeure en moi, intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Lui sait quoi demander parce que lui connaît parfaitement les desseins de Dieu. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je m'en vais dans la prière, comme un petit enfant, parce que cet esprit est aussi appelé un esprit d'adoption. Lorsqu'il vient en nous et qu'on va dans la prière comme chrétien, il vient et rassure nos cœurs. Et on est capable de s'abandonner entre les mains du Père. Je ne sais peut-être pas comment prier, mais j'ai cet esprit qui habite en moi, qui me dit que je suis un enfant de Dieu, qui me dit que toute chose concourt à mon bien, même si je ne comprends pas comment ça s'en va, où est-ce que ça s'en va. Alors je peux continuer à arriver avec des prières des fois totalement incohérentes, puis tout simplement dire, « Seigneur, Seigneur, je me tourne vers toi parce que c'est la bonne chose à faire. Mais je ne sais pas où donner de la tête ici et maintenant, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas pourquoi, je ne saisis pas. Mais je sais que je suis ton enfant, Seigneur, et que toute chose concourt à mon bien. Et j'ai confiance que ton esprit qui est venu faire sa demeure en moi, qui s'est donné pour mission de me transformer, m'amener à l'image parfaite de Christ, je sais que lui va faire ce qu'il faut avec cette prière-là, Seigneur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Voyez-vous, Jésus est venu bouleverser complètement la prière. Il est venu transformer complètement la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dans la présence de Dieu comme des milliers, des millions, des milliards d'hommes sur la terre qui crient à Dieu, mais les chrétiens ne le font pas en leur propre nom. Les chrétiens le font au nom de Jésus-Christ, avec cette assurance qu'aucun autre nom n'a été donné sur la terre pour le salut des hommes. Qu'en son nom, j'ai accès auprès de Dieu. Qu'en son nom, il m'accueille, ses regards me sont favorables. Et lorsque je ne comprends pas ce qui se passe, lorsque je ne sais pas comment prier, son esprit m'habite et intercède de toute manière en ma faveur. Je vais simplement dans la prière pour dire, Seigneur, je t'aime et je ne comprends rien. Viens, interviens dans ma vie, Seigneur. La venue de Jésus-Christ est venue bouleverser complètement la prière. Ce matin, j'ai décidé de faire une espèce d'introduction. Une introduction à la prière, un survol très, très large, très, très vaste. Maintenant, pendant le mois de février, nous voulons apprendre à prier. Il y a une sœur qui a très bien exprimé ça dans notre petit groupe mercredi soir. Elle a dit, moi, je prie pour mon enfant, je prie pour les besoins que je vois, mais après ça, je ne sais pas comment prier. Savez-vous quoi? Je m'identifiais tellement avec ce qu'elle disait. Nous voulons apprendre à prier, non? On va apprendre comment prier, comment parler à Dieu, de quoi on devrait parler avec Dieu, qu'est-ce qu'il devrait contenir, qu'est-ce que nos prières devraient contenir, comment s'adresser à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut qu'on lui dise. Et pour faire ça, nous allons regarder à un homme de prière. Alors ce matin, je faisais un survol avec vous. Juste une introduction à la prière. Mais tout le reste du mois de février, nous allons étudier ensemble concrètement des prières de l'apôtre Paul. Parce que Paul était un homme d'action. Mais comme la majorité des hommes d'action dans la Bible, c'est un homme de prière. Incroyable. Maintenant, je me suis permis de faire une grande introduction sur la prière avant d'entrer directement dans une des prières de Paul. Parce qu'il faut que vous saisissiez, il faut que nous saisissions quelque chose par rapport à Paul. Comment Paul venait dans la prière? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela, mais avant de connaître Jésus-Christ, avant que Paul devienne l'apôtre Paul, juste pour vous mêler comme il faut, avant que Saul de Tarse devienne Paul, c'était déjà un homme de prière. Avez-vous déjà réalisé cela? Pourquoi c'était un homme de prière? Mais Paul était juif, premièrement. Avant d'être chrétien, avant de devenir un disciple de Jésus-Christ, je veux dire, par nationalité, il était juif. Et non seulement il était juif, mais il était pharisien, fils de pharisien. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur de la loi, spécialiste de la loi de Dieu, de tout l'Ancien Testament? C'est sûr et certain que cet homme-là était un homme de prière. Il priait régulièrement, quotidiennement, exercé à la prière. Les images que vous avez des Juifs devant le mur des Lamentations, c'était pas là qu'il priait, je comprends, mais voyez-vous, il y avait cette ferveur dans la prière, il y avait ce zèle pour faire des choses pour Dieu. Donc, Paul était un homme de prière avant de connaître Jésus-Christ. Pourtant, il nous dit qu'au moment où il a rencontré Jésus-Christ, sa vie de prière a été complètement changée. Sa vie a été complètement changée. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Philippiens. Philippiens au chapitre 3. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, levez la main, les placeurs vont vous apporter une Bible dans Philippiens 3. On va lire quelques versets. Parce que la rencontre que Paul a faite avec Jésus de Nazareth est venue bouleverser complètement sa compréhension de l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, la vie de prière, complètement. Si vous n'avez pas de Bible, juste levez la main. Bertrand va vous en remettre une. Philippiens 3, verset 4. C'est Paul qui parle, qui a écrit cette lettre à l'église de Philippe, l'église qui était dans la ville de Philippe. Verset 4, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, dans ses œuvres, dans ce qu'il était, dans ce qu'il avait fait. » Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis donc juif, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, spécialiste de la loi de Dieu, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Cet homme-là était tellement zélé pour le Dieu d'Israël qu'il persécutait les chrétiens parce qu'il voyait en eux des gens qui avaient renié l'Ancien Testament. Il avait un zèle incroyable pour Dieu. Incroyablement ignorant, me direz-vous, mais incroyable. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. D'une certaine manière, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, Paul se présentait devant Dieu au nom de Paul. Parce qu'il estimait qu'il était irréprochable en regard à la loi de l'Ancien Testament. Il avait cette confiance que Dieu voulait l'écouter. Parce que c'était un sirop de bon bonhomme. Les choses ont changé lorsqu'il a connu Jésus-Christ. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Quand Paul a rencontré Jésus de Nazareth, il a commencé à s'approcher de Dieu dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Non plus en son nom, non plus au nom de toutes ses bonnes œuvres, non plus avec cette confiance qu'il était suffisamment juste pour satisfaire la loi de Dieu, mais avec cette confiance qu'un seul avait été suffisamment juste, Jésus-Christ, qu'il s'était livré en sacrifice volontaire sur la croix pour ses péchés. Et c'est par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que Paul s'approche dorénavant de Dieu, avec cette assurance qu'il est reçu, qu'il est entendu. Tout le reste du mois de février, on va étudier des prières de Paul, mais vous ne pouvez pas comprendre les prières de Paul si vous ne réalisez pas que Paul s'approchait de Dieu, non pas comme des millions d'hommes, des milliards d'hommes sur la terre actuellement le font, en leur propre nom, au nom d'un prophète, au nom d'un saint. Paul s'approchait de Dieu au nom de Jésus-Christ, sachant que l'Esprit-Saint habitait en lui et l'accompagnait dans ses prières. Maintenant, je veux terminer ce matin en étant très, très pratique avec vous. Pendant tout le mois de février, on va chercher à grandir dans la prière et Dieu voulant, pendant le reste de notre vie, on va chercher à grandir. Et Dieu sait qu'on va avoir besoin de l'assistance de l'Esprit-Saint pour grandir dans nos vies de prière. Maintenant, tout le monde ici prie. 99,9% des gens ici prient. Chrétiens, pas chrétiens, vous priez. J'espère que dorénavant, vous allez prier dans le nom de Jésus-Christ. Je l'espère. Pour le salut de votre âme. Je l'espère. Mais ça reste quelque chose d'obscur quand même, la prière. Je veux dire, tu t'installes dans la prière, puis après 3 minutes, tu commences à dire, il y a quelques exceptions ici. D'accord? Il y a des gens ici, là, je ne sais pas, c'est naturel, ils ont eu comme un boost de prière quand ils se sont convertis. Mais les autres, là, soyons honnêtes, après 3 minutes, tu commences à regarder ta montre, tu dis, faites le tour, Seigneur, je pense que c'est le temps que je vais prendre mon café. Non, c'est pas comme ça. Moi, je me mets à genoux. Quand je veux prier longtemps, c'est à genoux. Autrement, je pars. Je suis parti. Ou bien je pars. Donc, je me mets à genoux. Puis après 3 minutes, ben, je change de position. Puis là, à un moment donné, je réalise que je pars. Il faut que je me remette à genoux. Ça n'a rien de magique, là. C'est juste très, très physique. Alors, je vais terminer avec des trucs pratiques. Je ne sais pas si on peut les afficher en avant. D'abord, pour commencer, un outil pratique qu'on a mis sur vos chaises. Il y en avait un la semaine dernière. Je sais que la première fois, vous regardez ça, puis c'est marqué la prière. Fait que vous dites, si je le prends, je vais me sentir coupable. Je le prendrai pas, je vais le laisser là. D'accord? Je comprends. Je vous encourage à le prendre. Vous allez en avoir toutes les semaines pendant le mois de février. C'est juste un journal. C'est juste pour vous aider, vous stimuler, aller un petit peu plus loin, vous aider à réfléchir sur votre vie de prière. Alors ça, c'est pratique. Derrière, Il y a une partie des conseils que je vais mentionner ici. Là, je vais les énumérer. Vous allez venir me voir après. Vous allez dire, Yannick, j'ai pas eu le temps de les prendre en note. Peux-tu les avoir en note? Non. Ils sont là. Puis le reste va suivre les autres semaines. Vous allez toutes les avoir en 4 semaines. D'accord? Mais je veux déjà vous les lancer. Essayez d'en attraper 1 ou 2 au vol ce matin. Puis de réfléchir à le mettre comme application pratique. Et ça, c'est un outil pratique aussi pour nous aider à grandir dans notre vie de prière. Premièrement, planifier à l'avance un temps pour prier dans la journée. C'est évident, à moins qu'il arrive une crise dans votre journée, vous ne prierez pas si vous ne l'avez pas planifié. D'accord? Il y a 2 manières de prier. Tu attends que ça aille mal ou tu planifies de prier. Ou bien, je ne sais pas, tu demandes à une fille de te marier et elle dit oui. Là, peut-être tu vas prier. D'accord? Il vaut mieux prier brièvement et régulièrement que de prendre de longs temps de prière, mais peu souvent. Soyez pas trop ambitieux. On l'a vu avec le culte personnel, les lectures. Il y en a qui ont embarqué là-dedans. 2 signaient. C'est juste 2 chapitres. Moi, je vais en lire 4, ma Bible. Je vais la lire 2 fois au complet en 2 ans. Non, soyez humble. Vaut mieux prier 5, 10, 15 minutes, puis aller tranquillement, plutôt que d'avoir de grands appétits, puis se décourager après 3 jours. Joignez-vous à un petit groupe dès cette semaine. C'est certain que pour grandir dans des disciplines de la grâce, des disciplines spirituelles, être ensemble nous aide beaucoup. Accrochez Michel, allez voir Michel à la fin, et puis joignez-vous à un petit groupe dès cette semaine. Avoir un partenaire de prière pour s'encourager, ça peut être de se rencontrer 1 fois par semaine, ça peut être un coup de fil, comment ça va, qu'est-ce que tu as trouvé difficile, juste jaser ensemble puis s'encourager à grandir. 5 trucs pratiques pour éviter que les pensées ne partent à la dérive pendant la prière. Ben, prier avec une feuille tout près, ça c'est Richard Hall qui m'a appris ça. Moi j'ai besoin de mon agenda, parce que en 20 minutes de prière, 1 demi-heure de prière, tous les to-do de ma journée viennent tous en rappel dans ma tête. Quand je les écris, ils peuvent disparaître, je les oublie. Si je les écris pas, ils me tracassent. Prier à haute voix ou en chuchotant, ça aide énormément. Autrement, on part à la dérive, souvent. Mais si vous chuchotez, si vous priez à haute voix, vous allez rester là où vous êtes dans votre prière. Priez un psaume. Vous savez pas comment prier, puis vous dites, je m'en vais n'importe où. Prenez un psaume et priez-le. Littéralement. Il commence par une confession. Seigneur, je suis pécheur. C'est vrai, Seigneur. Il commence en disant, Seigneur, je comprends pas pourquoi ça va mal dans ma vie. Seigneur, il y a des choses que je ne saisis pas, mais en même temps, c'est vrai, Seigneur, t'es grand. C'est vrai que t'es merveilleux. C'est vrai que tu pourvois. Et priez le psaume. Un truc très simple. Priez en marchant à genoux, n'importe quelle position qui vous aide à prier. Il y en a qui le font en prenant des marches dehors. Moi, si je prie plus que 5 minutes, faut que ça se passe à genoux. Autrement, je suis pas là. Je vous le dis, je commence à entrer dans des états d'esprit incroyables. 6, commencez votre temps de prière en chantant un cantique. Vous n'avez pas le goût de prier. Ben, vous pouvez dire, Seigneur, j'ai pas le goût de prier. Ouvrez un livre de cantique, pensez à un chant. Moi, je prie régulièrement avec des sœurs qui sont des femmes de prière, puis elles ont toujours un chant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Souvent, je commence la prière avec ça. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Souvent, tant que je ne l'ai pas chanté, je ne suis pas là. Tracassé, j'ai un paquet de soucis, j'ai rien à dire à Dieu. Demandez à un homme ou une femme de prière, quelqu'un qui est un modèle pour vous, de prier quelques minutes avec vous chaque semaine, pendant le mois, pendant l'année. Achetez-vous un calepin pour avoir un carnet de prière. Il n'y a rien de plus excitant que de voir Dieu répondre à nos prières. Et on le fait lorsqu'on marque une note, puis on dit « j'ai commencé à prier à telle date ». Personnellement, je le fais régulièrement, puis 2 fois par année, je repasse toutes mes requêtes de l'année. Puis là, je me réjouis devant Dieu de voir tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a exaucé. Divisez les journées de la semaine pour les consacrer à différents sujets. Par exemple, le lundi, vous priez pour la famille élargie. Mardi, moi, je prie pour le conseil de l'Église et leur famille. Mercredi, je prie pour la mission de l'Église et tous les besoins pastoraux particuliers dans l'Assemblée. Jeudi, je prie pour la mission à Longueuil et partout sur la terre, avec des missionnaires précis en tête. Vendredi, je prie pour le gouvernement. Samedi, je prie pour mes amis intimes et leur famille. Voyez-vous, j'ai divisé ma semaine. Puis évidemment, chaque fois que je commence à prier, je prie pour Esther, les enfants, toutes sortes de requêtes qui me passent par la tête, qui sont comme urgentes sur le moment. Mais j'ai plus que ça aussi. J'ai comme un programme, une semaine de prière. Ça, c'est pour les scouts comme moi. OK? Vous avez votre programme pour la semaine. Lisez 1 page ou 2 d'un bon livre sur la prière avant de prendre un temps de prière. C'est génial. Andrew Murray, allez chercher ça, des livres comme ça. Puis juste lire 1 page ou 2 pour vous préparer. Entremêlez vos prières de confession, de louange, d'intercession. Soyez pas statique dans la prière. Intercédez le plus souvent possible en reliant votre requête à un verset qui porte la même idée. Vous savez que vous êtes en train de prier selon le cœur de Dieu quand vous faites ça. C'est un peu ce qu'on va étudier à travers tout le mois de février. Puis je pense qu'un des conseils les plus importants, surtout si vous commencez à étirer un peu vos temps de prière, priez jusqu'à ce que vous priez. Et ceux qui ont déjà prié plus de 10 minutes, 15 minutes, il y a un temps, il y a un moment de grâce où, à un certain moment donné, tu connectes juste avec Dieu. Là, tout le reste n'est plus là, tu es focusé sur Dieu. Et des fois, ça demande de passer comme ce second souffle du marathonien. Priez jusqu'à ce que vous commencez vraiment. Le reste du temps, tu pries, mais tu n'es pas tout à fait là. Frères et sœurs, on veut grandir dans cette intimité avec Dieu. Nous avons le privilège incroyable d'avoir accès auprès de Dieu avec une assurance qu'aucun homme, aucune femme sur la terre ne possède s'il n'a pas placé sa foi en Jésus-Christ. Nous sommes assistés par l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais il faut aller vivre ça dans la prière pour commencer. On va prier ensemble. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous approchons devant toi ce matin. Nous sommes assemblés dans le nom de Jésus. Parce qu'en Jésus, nous trouvons une ferme assurance que tu nous entends, que tu nous reçois, que tes faveurs sont envers nous, Seigneur. Nous avons cette ferme assurance que, quels que soient nos péchés, quels que soient les gaffes, les niaiseries que j'ai faites cette semaine, je peux te demander pardon et tu vas me pardonner à cause du sacrifice de Christ. Merci de nous accueillir, Père. En même temps, comme Jonathan le disait, Seigneur, nous te confessons que la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Pourtant, tu dis prier sans cesse. Tu nous dis que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous apprendre à prier, Seigneur. Certains d'entre nous ont arrêté de prier parce qu'ils n'ont plus foi en toi. Ils ne se l'avoueront pas, mais ils ont essayé la prière et ça n'a pas marché. Alors, ils ne prient plus. D'autres ne prient pas, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas appris à prier. D'autres ne prient pas, Seigneur, parce que d'autres choses sont plus intéressantes. Mais nous avons besoin de ton esprit qui vient éveiller nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Aie pitié de nous, Seigneur. Enseigne-nous à prier, à venir vers toi. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes assemblés en ton nom, nous voulons intercéder en faveur de ceux d'entre nous qui sont malades. On pense à Mme Martin, Seigneur, qui souffre de sa santé, qui a tellement hâte d'être réunie avec toi, Seigneur, pour l'éternité, qui souffre d'être isolée, d'être séparée du corps, séparée de l'Église. Viens, Seigneur, lui donner de la paix et de la joie dans cette solitude qu'elle expérimente, comme elle me l'a partagé si souvent, ta présence, Seigneur. Nous voulons te prier pour Diane qui va être opérée cette semaine, Seigneur. C'est toi qui es le bon médecin, Seigneur. Si tu le veux, tout ira parfaitement. Viens mettre ta main sur les médecins, mais spécialement sur le cœur de Diane. On te demande de lui donner ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Mme Ely, cette femme de prière qui passe à travers toutes sortes de traitements. On te demande de la fortifier dans son corps, de la relever, de la guérir. Nous te bénissons pour Marcel qui est ici, Seigneur. Ton serviteur, Seigneur. Viens le bénir, viens le rétablir. Sois avec tous ceux d'entre nous qui sont malades, souvent retenus à la maison, privés de la communion avec nous, Seigneur. Et viens nous rencontrer tout au long du mois de février. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.